Mondial Sport sur RFI. Christophe Dirindzian, Antoine Grenier.
Bonsoir à tous, Mondial Sport, grand format comme chaque dimanche, un voyage dans l'actualité sportive de l'Australie au Gabon, de la Croatie à l'Arabie Saoudite, sans oublier l'Europe et son football. Les Citizens déchus de leur statut d'intouchable en Première Ligue par Liverpool, l'Espagne et le Real Madrid qui n'y arrivent plus du tout, et les réactions sur le nouveau contrat en or massif de Lionel Messi. Tandis qu'en Afrique, il sera bien sûr question du Chad, Antoine.
Évidemment, le championnat d'Afrique des Nations au Maroc qui disputait 3 rencontres aujourd'hui. Le Soudan surprend la Guinée dans le groupe A et dans le groupe B, la Côte d'Ivoire démarre sur une défaite. On détaillera tout ça avec notre envoyé spécial Christophe Jousset. Autre envoyé spécial, autre sport, Thomas de Saint-Léger nous présentera la tropicale Amissa Bongo qui s'élance demain. Premier coup de pédale à Kango, direction Lambaréné pour les 15 équipes engagées. Et puis un mot de handball, la Coupe d'Afrique approche, elle débutera mercredi à Libreville. Le Gabon espère se faire une place continentale, mais doit faire face à plusieurs défis. Le directeur technique national du handball gabonais s'est confié à RFI.
Ça y est, les femmes saoudiennes peuvent enfin devenir de vraies supportrices de football. 3 stades du royaume leur ont ouvert leurs portes ce week-end. Illustration de la nouvelle politique d'ouverture ou d'entre-ouverture de la société. Enfin, le titre à l'Open d'Australie va-t-il rester dans les mains de l'inoxydable Roger Federer? Alors que la quinzaine de Melbourne s'apprête à démarrer, le Suisse apparaît comme le favori à sa propre succession face à des rivaux à l'état de forme encore à démontrer.
RFI, Radio France Internationale.
Angleterre et Espagne, nos deux destinations donc de la soirée pour ce qui concerne nos traditionnels gros plans sur les championnats européens. Et sans plus attendre, c'est Londres et Olivier Sclaveau qu'on rejoint pour la Première Ligue. Bonsoir Olivier.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Parce qu'on a eu droit à un vrai match de folie cet après-midi à Anfield Road, l'affiche de cette 23e journée entre Liverpool et le leader Manchester City qui a tenu toutes ses promesses et a débouché sur un coup de tonnerre. Les Citizens battus pour la première fois de la saison en championnat, 4-3.
C'était énorme, on s'est régalé, Jürgen Klopp l'a dit après le match, il s'est régalé lui aussi. On en a pris plein les yeux, 4-3, c'était un scénario improbable, on s'y attendait, on le voulait, et puis on nous a offert cette super partie de football. On s'est surtout régalé face à la vitesse et le pressing haut des joueurs de Liverpool. On a eu de la chance que ça parte très vite avec le but de Oxlade-Chamberlain dès la 9e minute de jeu. Derrière, Leroy Sané égalise pour City avant la mi-temps, mais Roberto Firmino va faire craquer City une nouvelle fois en deuxième période. Et puis là, en l'espace de 8 minutes, Sadio Mané et Mohamed Salah vont aussi mettre 2 buts, sublimes eux aussi. Tous les buts de Liverpool ont été sublimes aujourd'hui. Man City a bien eu le mérite de s'accrocher en première période, mais ils se sont écroulés collectivement en encaissant ces 3 buts de la deuxième période. On a quand même cru à une remontée quand Bernardo Silva puis Ilkay Gundogan ont marqué en fin de match pour les Citizens. On connaît les errances défensives des Reds, alors on a pris peur un peu pour Liverpool et Jürgen Klopp. Fin de match, City garde quand même 15 points d'avance au classement et a de quoi voir venir. De son côté, Liverpool dépasse Chelsea et monte sur la 3e marche du podium de Première Ligue, à égalité de points avec United, 2e, qui joue lundi contre Stoke.
Alors ça fait, vous l'avez dit, un petit groupetto provisoire derrière l'ultra-dominateur City, les Reds, Manchester United donc, qui jouera demain, et Chelsea qui a calé hier à domicile face au Leicester de Claude Puel, 0-0.
Ouais, panne de points et surtout panne de but. C'est le 3e match nul, 0-0 d'affilée pour les Blues. Le 4e match d'affilée sans victoire, toutes compétitions confondues. Alors, c'est dans la finition que les hommes d'Antonio Conte ont le plus de mal en ce moment. Contre Leicester, ils ont encore une fois tiré le plus au but, mais rien ne rentre. Conte s'acharne à mettre toute son équipe dans le même panier pour éviter de pointer du doigt ses attaquants. Alors sur le fond, il a raison, tout le monde doit pouvoir marquer sur les occasions dans le match, mais c'est Alvaro Morata qui se retrouve sous les critiques, justement dans le sens où il accumule les situations dangereuses sans mettre la balle au fond des filets et permet pas à son équipe de prendre des points. Il a encore fait un match très moyen samedi et reste sur plusieurs performances peu remarquables sur les derniers matchs. Liverpool est revenu à égalité de points au classement et les Blues n'ont toujours pas gagné en 2018.
On en vient à Arsenal, battu chez le mal classé, Bournemouth 2-1, l'Europe l'année prochaine, apparemment, Olivier, les Gunners peuvent presque faire une croix dessus.
Ouais, c'est un petit peu ce qui transpire de ces résultats. Alors, Arsenal non plus, n'a toujours pas gagné en 2018. Cette fois-ci, donc, Arsène Wenger l'a dit mieux que personne, son équipe n'a rien compris au match. Hector Bellerin a ouvert le score en deuxième période, mais en 4 minutes, Bournemouth a refait son retard et pris la tête. Alors une nouvelle fois, c'est la fragilité de l'équipe qui a été exposée. Les Gunners multiplient les erreurs en ce moment et cette fois-ci, bah, ils les ont payées cher. Une nouvelle fois, Arsenal a dominé la possession du ballon mais n'a tiré que 12 fois, dont 3 seulement étaient cadrés. Alors, comme vous l'avez dit, ils se retrouvent décrochés à la course pour les places européennes. Ils sont 6e à 8 points du 4e. Et puis, petit point, Alexis Sanchez, son absence a été très remarquée. Il n'était pas dans le groupe pour aller jouer à Bournemouth. Wenger a précisé que son avenir devrait être scellé dans les prochaines 48 heures.
Alors, à l'inverse d'Arsenal, tout va bien pour Tottenham. Vainqueur large, hier, 4-0 face à Everton.
Oui, alors... Si on reprend un peu le cours de l'histoire, il y a eu une claque infligée par Manchester City qui a dû faire beaucoup de bien à Tottenham. C'était une défaite 4-1 mi-décembre et depuis ils ont enchaîné 6 matchs sans défaite dont 5 victoires. L'attaque et le milieu de terrain ont retrouvé leur efficacité et leur fluidité. Et bien oui, comme vous l'avez dit, c'est Everton qui en a fait les frais. 4-0 et surtout un match époustouflant de Heung-Min Son, le Coréen, avec un but et une passe décisive et une activité constante qui a fait beaucoup de mal à Dead Office sans plan de jeu. De son côté, Harry Kane en profite pour marquer le 98e but de sa carrière en Première Ligue et il devient le meilleur buteur de l'histoire du club en championnat. Tottenham est 5e à 3 points du podium.
Et pour évoquer cette victoire des Spurs, on va écouter tout de suite le sentiment du gardien de Tottenham, Hugo Lloris, satisfait. Évidemment, on l'imagine de voir son équipe garder le rythme.
Bonne forme actuelle et il faut continuer parce qu'il faut plus perdre de points. Les équipes devant avancent, il faut gratter du terrain. L'objectif c'est toujours le même, c'est de finir dans le top 4. C'est l'objectif principal du club, de s'installer sur le long terme dans ce top 4 pour pouvoir jouer régulièrement la Ligue des Champions. Mais la compétition est rude parce qu'il y a beaucoup de grands clubs avec de grands moyens pour y prétendre. Et maintenant voilà, on joue avec nos armes, avec notre philosophie. Lorsqu'on joue ce genre de match ce soir, lorsqu'on finit le match, voilà, on sait pourquoi on fait autant d'efforts au quotidien, aux entraînements, pour prendre autant de plaisir et puis pour être autant performant.
Hugo Lloris avec vous, Olivier Sclaveau à Londres. Merci beaucoup Olivier. On enchaîne avec la Liga, 19e journée comme chaque semaine, suivie par Pierre Chaperon. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Et on jette tout de suite, parce que c'est l'actualité chaude, un coup d'œil au déplacement du FC Barcelone en ce moment sur la pelouse de la Real Sociedad. Dites-moi, c'est compliqué pour le Barça pour l'instant, match accroché.
Oui, match accroché, 73 minutes de jeu et le Barça qui mène 3 buts à 2, ça date d'il y a quelques secondes puisque c'est Luis Suarez qui a marqué le troisième but pour Barcelone, une Suarez bien mal embarquée pourtant pour les Catalans qui étaient menés 2-0 après un but de William Rossé et un but de Juanmi, un superbe but de Juanmi sur une superbe ouverture de Canales dans le dos de la défense, Juanmi qui contrôle et qui frappe du droit. C'est bien. Tout ça, ça a bien réveillé le Barça à la 39e minute. Paulinho sur un centre de Suarez bien lancé par Jordi Alba qui réduit le score. Et puis à la 50e minute, dans la deuxième mi-temps, golazo, comme on dit ici, de Luis Suarez. Messi qui le lance, il ouvre son pied l'Uruguayen pour centrer, mais ça se transforme en tir qui se loge dans la lucarne de Rulli. Luis Suarez qui double la mise, donc je vous en parlais. 3-2, à noter que Dembélé qui est entré en jeu à la 65e minute à la place de Paulinho, Iniesta, lui, est sur le banc.
Tiens, vous avez évoqué Messi il y a quelques instants, Messi cité, on en a parlé hier dans Mondial Sport, dans les derniers Football Leaks. Est-ce que c'est une affaire dont on parle dans les médias espagnols, Pierre?
Alors oui, on en a parlé, c'était l'ouverture de quelques journaux des sports à la télé vendredi soir, mais ça n'a pas fait les grands titres de la presse. Très rapidement, AS en a parlé évoquant l'amende du fisc qu'aurait payé le Barça au père de Messi. Marca, lui, s'est attaché à reprendre cette tentative de transfert de Messi au Real en 2013, cette tentative un peu rocambolesque. Le quotidien Marca, qui appartient au même groupe de médias que El Mundo, qui est l'un des représentants espagnols de ce consortium de journaux enquêtant sur les Football Leaks.
Alors ces nouvelles révélations absentes en grande partie de la presse, c'est une surprise ?
Alors oui et non, hein, Christophe, il y a beaucoup de choses particulières dans la presse espagnole. Par exemple, que Mundo Deportivo, Sport, les deux quotidiens de Barcelone n'en parlent pas, c'est à signaler. Pour les autres médias, il y a toujours ces petites guéguerres entre différents groupes de presse en Espagne. Et puis, il y a une autre actualité, vous le savez, en ce moment, en Espagne, en Catalogne notamment. Mais on sait en Espagne, hein, comment le Barça caresse dans le sens du poil la famille Messi. On sait qu'ils font tout pour le mettre dans les meilleures dispositions, lui et son entourage. Le FC Barcelone étant un club de socios, un départ de Messi pourrait coûter la tête de n'importe quel président. L'enquête a juste confirmé que le Barça était prêt financièrement, notamment à tout, pour garder son joyau.
Le Real Madrid, vous en parliez, qui plonge chaque jour un peu plus dans la crise. Défaite hier 1-0 à domicile face à Villarreal.
Oui, et grâce au but de Fornals à la 87e minute sur une contre-attaque, un joli lob, une réalisation qui offre le premier succès de son histoire à Villarreal sur la pelouse de Bernabéu. Au classement, le Real est quatrième et même s'ils ont un match en moins, les Merengues comptent un petit point d'avance sur leur adversaire du jour. Résultat, situation alarmante à tous les étages de la Maison Blanche. Hier après le match, le milieu de terrain allemand Toni Kroos expliquait qu'il fallait penser avant tout à sécuriser la quatrième place. On en est là au Real Madrid.
Inquiétant, hein, c'est le mot qui revient dans la presse ce matin d'ailleurs, alors que nous sommes à un mois du huitième de finale aller face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Ouais, et pour une fois, dans la presse espagnole, ce même sentiment d'impuissance. Si vous êtes en Catalogne, vous pouvez lire que le Real est abattu pour Sport ou en crise pour Mundo Deportivo. Le titre qui résume le mieux l'état d'esprit du Real est peut-être celui de AS. Sans but, sans chance, sans explication, peut-on lire. Le manque d'explication, c'est un peu ce qui revient dans la bouche du côté du Real. Hier, on a quand même vu un meilleur visage dans le jeu par rapport aux dernières sorties, mais sans effet. Écoutez, à ce propos, le défenseur madrilène Dani Carvajal, pour lui, cette défaite est difficile à avaler, mais il ne faut surtout pas baisser les bras.
Je crois que ça résume un peu la dynamique actuelle. Nous sommes dans une mauvaise série de résultats de matchs, mais aujourd'hui, peu de gens peuvent dire que nous n'avons pas fait les efforts, que nous avons mal joué. Nous avons des occasions. Je crois qu'à la mi-temps, nous pouvons mener 2 ou 3-0 et la rencontre est très différente. Nous sommes dans une mauvaise période et au final, tout paraît négatif, comme si c'était une catastrophe. Mais je crois que l'équipe est forte. Nous sommes unis. Dans le vestiaire, nous nous sommes dit que nous pouvions garder la tête haute. Je crois que tout le monde a donné le maximum. Ce n'est pas rentré et les choses ne se sont pas passés comme prévu, c'est le football. Nous avons du mal à débuter les matchs, à marquer, ce sont des choses à corriger. Si nous le faisons, l'équipe ira mieux.
Le Real qui termine cette phase aller de la Liga avec un des pires bilans de ces dernières années. Madrid a 11 points de moins par rapport à la saison dernière, comme le souligne Marca. Marca qui parle d'une accumulation de records négatifs. Cela faisait 8 ans que les Merengues n'avaient pas perdu 2 fois de suite à domicile, par exemple. Le quotidien qui égratine notamment ce matin Zinedine Zidane soulignant son manque d'audace. Toujours le même 11, toujours les mêmes changements, défaite. C'est ce qu'on lit ce matin dans Marca, Zidane sous le feu des critiques, mais qui ne serait pas menacé jusqu'à la fin de la saison. Bref, il y a du boulot pour Zizou et ses joueurs à un mois du retour de la Ligue des Champions, qui semble être le seul objectif de prestige maintenant pour le club de Madrid.
Le feuilleton de la Liga, comme chaque semaine avec vous, Pierre Chaperon. Merci beaucoup Pierre, à très bientôt dans Mondial Sport. On n'oublie pas la Ligue 1 avec les 3 derniers matchs de la 20e journée. Le Paris Saint-Germain est à la Beaugeoire face à Nantes et mène pour l'instant 1-0 depuis la 12e minute. Un but d'André Di Maria cet après-midi. Lyon a manqué l'occasion de redevenir seul deuxième en concédant un nul 1-1 à domicile avec Angers, tandis que Saint-Etienne s'éloignait un peu de la zone rouge en l'emportant 2-0 à Geoffroy Guichard sur Toulouse. Allez, le football en Afrique avec vous Antoine. Au Maroc, la suite de la première journée de la phase de groupe du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Une journée dense avec 3 matchs.
Et à l'instant, le coup de sifflet final de la seconde rencontre du groupe B pour sa grande première officielle à la tête d'une sélection ougandaise. Sébastien De Sabre a vu son équipe s'incliner 3-1 face à la Zambie. Première manquée donc pour le nouveau sélectionneur ougandais. Une rencontre qui se disputait à Marrakech, mais c'est à Agadir que nous nous dirigeons maintenant. Bonsoir Christophe Jousset.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial de RFI sur ce CHAN 2018. Je le disais, vous êtes aujourd'hui à Agadir en prévision des matchs du groupe D qui se disputeront mardi. D'ailleurs, vous sortez à l'instant de l'entraînement de l'équipe du Cameroun.
Oui, le Cameroun qui s'est entré dans la fraîcheur, hein, parce qu'il fait frisquer à Agadir, au bord de l'océan, 7-8 degrés, vous voyez que c'est vraiment pas chaud. Et tout à l'heure, alors que Rigobert Song dirigeait cet entraînement qui a été assez long hein, d'ailleurs, et appliqué, eh bien le préparateur physique, l'attaché de presse aussi ont dû se mettre à courir, à faire des tours de terrain pour se réchauffer, parce que, encore une fois, c'est l'hiver ici aussi au Maroc.
J'espère que de votre côté vous êtes bien couvert, Christophe. Depuis Agadir, vous avez suivi l'autre rencontre de ce groupe B qui a vu la victoire de la Namibie sur le fil face à la Côte d'Ivoire.
Oui, avec un but de Ambira à la 93e minute, donc vraiment à quelques secondes du coup de sifflet final, une tête sur un coup franc d'une trentaine de mètres qui était tiré en direction du but, qui plongeait vers le but. Ambira, lui aussi, a plongé au premier poteau. Ce défenseur du Tura Magic, un club de Windhoek, la capitale namibienne, il a démontré son sens du timing en devançant deux défenseurs dans les airs et Zadi Blé, le gardien de l'Africa Sport, qui est sorti un petit peu en retard. Ça faisait 1-0. Évidemment, c'était irrattrapable pour les Ivoiriens. La Namibie qui participe pour la toute première fois au CHAN, qui s'est qualifié après avoir éliminé en route le Zimbabwe et les Comores. La Namibie qui a séduit. En première période, elle n'a pas eu la possession de balle. C'est les Ivoiriens qui l'avaient avec un rapport de 60-40. Mais les Ivoiriens ont eu du mal dans l'ensemble du match, d'ailleurs, à être dangereux, à l'image de, par exemple, de Fontinho, le petit frère de Gervinho, qui a beaucoup couru, mais qui est loin d'avoir convaincu aujourd'hui. Début compliqué pour la Côte d'Ivoire, qui reste sur une troisième place au dernier CHAN il y a 2 ans au Rwanda. La fédération ivoirienne a d'ailleurs annoncé avant le tournoi que son objectif était de faire mieux que cette troisième place. C'est mal parti, si l'on s'en tient à ce premier résultat contre ce petit poussé namibien, dans une rencontre qui s'est déroulé devant quelques centaines de spectateurs seulement. Hein, dans le grand stade de Marrakech, ça sonnait creux, vous savez, c'est le genre de match, Antoine, où on entend très bien les joueurs communiquer entre eux.
Donc, personne dans les tribunes à Marrakech, mais hier, Christophe, vous assistiez au premier match de ce CHAN 2018 qui a permis au Maroc de prendre la tête du groupe A assez largement. Le Soudan est d'ailleurs revenu à hauteur de points aujourd'hui en s'imposant 2-1 sur le Sili local de Guinée. Mais hier, l'essentiel était ailleurs, les Marocains ont fait très forte impression.
Oui, alors là, pour le coup, au stade Mohamed V de Casablanca, il y avait du monde, 36 000 spectateurs. Victoire 4-0 face à une équipe de Mauritanie vaillante mais limitée. Les Mourabitoun ont résisté pendant plus d'une heure et puis ils ont craqué à 4 reprises en 25 minutes. L'attaquant de pointe de la Renaissance sportive de Berkane, Ayoud El Kabi, a signé un doublé. La victoire a été longue à se dessiner malgré une domination d'entrée, mais l'essentiel est là pour les Marocains. 4-0, c'est un résultat marquant. Écoutez ce qu'en dit Naïef Aguero, le défenseur central, jeune, hein, 21 ans seulement, du FUS de Rabat, et hier soir de cette équipe des Lions de l'Atlas locaux.
Débuter une compétition, c'est pas si facile. Quand tu vois le public marocain, tout un pays derrière toi, tu veux être bon, tu veux montrer, voilà. On a eu malchance en première mi-temps. On a eu des occasions et des opportunités pour marquer. Le plus important, c'est de gagner les 3 points et les mettre dans la poche. Ça va nous donner de l'énergie et de la motivation et de l'ambition pour rester sur ce chemin. Et pourquoi pas finir le premier de notre groupe avec l'effectif qu'on a. Individuellement, collectivement, on est très bien. Je pense qu'on peut faire quelque chose dans cette compétition.
Voilà la réaction du défenseur du Maroc qui lance donc idéalement son parcours, le Maroc qui peut continuer donc à assumer pour le moment ce statut de favori naturel dans ce CHAN.
Christophe Jousset en direct avec nous depuis Agadir, notre envoyé spécial sur le CHAN 2018. À noter que demain, dans le groupe C, le seul vainqueur de CHAN présent dans la compétition entre en lice. Il s'agit de la Libye, vainqueur en 2014. Les Libyens qui affrontent la Guinée équatoriale, tandis que le Nigeria jouera lui contre le Rwanda.
Voilà pour ce qui concerne l'actualité du CHAN et du football africain, mais l'Afrique reviendra bien évidemment dans la seconde partie de Mondial Sport, notamment avec la Tropicana Missa Bongo et la CAN de handball. Pour l'heure, c'est la petite pause traditionnelle dans Mondial Sport. Tout de suite après le flash, on ira en Arabie Saoudite où les femmes ont enfin le droit d'apprécier le spectacle du football dans un stade. A tout de suite.
Mondial Sport sur RFI. Christophe Dirimzian, Antoine Grenier.
Mondial Sport, seconde partie, et d'abord, adressons-nous particulièrement à vous, mesdames, qui nous écoutez. Si vous êtes une fan de football, ce qui suit va peut-être vous surprendre. Et pourtant, c'est bien une grande première que les femmes saoudiennes viennent de vivre. Elles aussi sont désormais autorisées à assister à des matchs de football. Ce qui semblait impensable il y a encore quelques mois dans ce pays ultra-conservateur est devenu réalité à la faveur de la politique d'ouverture, toute relative, lancée par le prince héritier Mohamed Ben Salman. En ligne avec nous, Frédéric Nkuna, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Riyad, la capitale saoudienne, qui est l'une des trois villes où les stades ont été ouverts ce week-end pour la première fois, à l'occasion d'un match de championnat entre Al Ittihad et Al Hilal. Alors Frédéric, comment ça s'est passé?
Ça s'est relativement bien passé. C'est vrai que les femmes, avant d'accéder au stade, avaient une petite appréhension. Je ne savais pas comment allait réagir la foule, habituée à assister au match sans la présence des femmes. Les tickets étaient imprimés en rose pour l'occasion, avec la présence de la princesse Rima, qui est la présidente de la communauté sport de la Fédération saoudienne de football. Tout s'est bien passé et au final, on n'a pas trop senti une différence par rapport à d'habitude.
Précisons que les femmes saoudiennes avaient déjà été autorisées à entrer dans le stade de Riyad en septembre dernier, mais c'était pas pour un match de football, hein. Est-ce que ce week-end historique est une simple étape vers une généralisation éventuelle de l'ouverture des stades et des salles à un public féminin?
Bah écoutez, vu de l'extérieur, c'est vrai que les gens diront que c'est un petit pas, mais vu d'ici, vu de la capitale, vu de Riyad, c'est un très grand pas. Cela s'est fait dans un contexte un peu particulier. Depuis plusieurs mois, il y a beaucoup de lois, de décrets en faveur de l'ouverture justement pour les femmes dans ce pays ultra-conservateur. Quelques jours auparavant, un salon de loto organisé pour les femmes. Vous savez que les femmes auront le droit de conduire à partir de l'été prochain. Il y a aussi une volonté politique d'impliquer davantage les femmes dans la pratique du sport. Désormais, la possibilité de pratiquer le sport à l'école, ça fait partie de la vision 2030. Un plan pour justement sortir l'Arabie Saoudite de la dépendance du pétrole, mais aussi pour impliquer davantage les femmes dans la vie sociale. Vous savez que en Arabie Saoudite, plus de la moitié de la population à moins de 25 ans. Et il y a beaucoup de femmes qui sont de plus en plus diplômées, justement. Elles ont accès au travail, elles ont accès à beaucoup de nouvelles choses. Et donc, à la pratique du sport. Il y a quelques mois, vous aviez un match de basketball dédié aux femmes. C'est une première, c'est à Jeddah. Preuve que, en Arabie Saoudite, les choses vont de l'avant et les choses sont de plus en plus ouvertes aux femmes.
Alors Frédéric, les femmes spectatrices, c'est une chose, les femmes pratiquantes de sport, c'en est une autre. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui est permis aux femmes qui veulent entretenir leur corps et leur santé, voire pour des pratiquantes de haut niveau, celles qui seraient tentées par le professionnalisme?
En l'état actuel des choses, les femmes ont accès aux salles de gym dédiées aux femmes. Après, il y a de plus en plus d'événements féminins. Il y a eu cette semaine un tournoi international de squash qui réunissait les meilleures femmes. Il faudra s'attendre dans les semaines qui suivent, les mois qui suivent, à d'autres événements dédiés aux femmes.
Merci beaucoup Frédéric Nkuna à Riyad.
RFI, Radio France Internationale.
Allez, on passe au cyclisme avec vous Antoine. Demain, le départ de la 13e Tropicale à Missa Bongo.
Une course qui donne le coup d'envoi de la saison cycliste internationale depuis le Gabon. La Tropicale à Missa Bongo. Premier rendez-vous coché sur le calendrier UCI 2018. Bonsoir Thomas Saint-Léger.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
Alors départ demain de Kango à 100 km au sud-est de Libreville. Une tropicale qui comptera 7 étapes, 1000 km pour les 89 coureurs des 15 équipes représentées. Les chiffres sont donnés. Quelles sont Thomas les particularités de ce parcours 2018?
Eh bien déjà la longueur, vous l'avez dit, 1000 km environ, c'est 100 de plus que l'an dernier à ce moment-là de la saison, avec bien sûr la chaleur très importante ici au Gabon, vous le savez, c'est loin d'être anodin. Ensuite, clairement, les étapes sont concentrées dans la région de l'Ambaréné dans un premier temps, et puis ensuite, plus au nord, vers Oyem. Exit donc les plateaux du Haut-Ogooué. Ça ne veut pas dire que les coureurs ne grimperont pas. Au contraire, pas mal d'étapes casse-pattes, usantes à prévoir, et une journée clé jeudi, 182 km entre Djolé et Midzik, c'est inédit, c'est long et c'est dur, très peu de portions plates et une route qui ne cessera de s'élever petit à petit dans les 60 derniers kilomètres.
Et ça, c'est inédit, vous le disiez. En revanche, plus classique, la boucle sera bouclée dimanche prochain à Libreville. Et comme chaque année, des équipes professionnelles européennes roulent aux côtés des équipes africaines.
Oui, c'est l'identité de cette Tropical Amissa Bongo, profiter du label UCI pour permettre aux meilleurs cyclistes du continent de se frotter au très haut niveau. Par exemple, Villiers, une équipe italienne engagée sur le dernier Giro. Et puis bien sûr, Direct Energy, lauréate l'an dernier avec Johan Gen, lauréate en 2016 aussi avec Adrien Petit. Ces deux coureurs sont là. La formation dirigée par Jean-René Bernadeau s'aligne, elle, pour la huitième fois. Une fidélité importante pour Philippe Crépel, c'est le directeur de la course.
C'est formidable de voir des professionnels aguerris qui font le Tour de France, qui ne sont pas abonnés, qui sont passionnés pour la Tropicale. C'est ce qui nous permet d'imaginer qu'un jour d'autres vont les rejoindre. Alors il ne s'agit pas de faire un World Tour, il ne s'agit pas d'être la plus grande course avec plein de professionnels, non. Il s'agit de faire un clin d'œil de la part des pros du Tour à un cyclisme africain qui est en plein développement. Donc ça, c'est la vocation de la Tropicale. Cette confrontation entre le monde des professionnels et le meilleur du cyclisme africain. Et à ce sujet, je regrette vivement que Dimension ne soit pas là, parce que c'est quand même une équipe pour le Tour qui s'est lancée sur le thème du cyclisme africain. Et hélas, ils sont absents et je ne sais pas pourquoi.
Philippe Crépel, le directeur de course, qui glisse un petit tacle au passage à Dimension Data. On l'a compris, l'équipe sud-africaine décline pour l'instant l'invitation, mais il y aura quand même du beau monde, hein, Thomas.
Oui Antoine, je l'ai cité, Adrien Petit, ancien vice-champion du monde espoir, deux top 10 sur les deux derniers Paris-Roubaix. Damien Godin, son coéquipier, gros moteur, vainqueur d'un prologue de Paris-Nice, c'était en 2013, cinquième lui de la reine des classiques cette année-là. Et puis Antoine, petite devinette pour vous, il y a un ancien maillot jaune du Tour de France dans le peloton de cette Tropicale 2018. Avez-vous une petite idée?
Peut-être Rinaldo Nocentini?
Bravo Antoine, on ne peut rien vous cacher. Rinaldo Nocentini, coureur passé par AG2R, maillot jaune de la Grande Boucle pendant une grosse semaine. C'était en 2009, une autre époque. Il a d'ailleurs fêté au mois de septembre ses 40 ans, mais ne l'enterrez pas. Il a fini, Rinaldo Nocentini, troisième du dernier championnat d'Italie. C'est un coureur qui vit en quelque sorte une seconde jeunesse, un coureur intéressant. On l'a d'ailleurs rencontré tout à l'heure et vous l'entendrez cette semaine, je vous le promets.
On a parlé donc des têtes d'affiche européennes. On n'oublie pas les coureurs africains. Qui est là, Thomas ?
Les Sud-Africains à part, il y a ce qui se fait de mieux sur le continent, le Rwanda avec le deuxième coureur africain du moment derrière Luis Menties, à savoir Joseph Areruya, vainqueur du dernier tour du Rwanda. Il est très bien entouré avec Valens Daïsenga. Le Maroc toujours très solide, et puis évidemment l'Érythrée, là encore des noms que vous entendez régulièrement sur l'antenne de RFI, Simon Moussier, Zemen Fes Selemon et un chef de file, Tesfom Okuba Mariam, sacré meilleur cycliste du continent en 2016, deuxième de la Tropicale l'an dernier. Il rêve cette fois de damer le pion aux professionnels européens, mais il le sait, ça s'annonce compliqué.
Je verrai comment seront les autres coureurs, parce que c'est la première course de la saison pour tout le monde. On va voir qui est en condition. Si mes jambes sont bonnes, si j'ai le moral, je pourrais me battre avec les grands coureurs, avec les professionnels comme Direct Energy, Delco. Mais cette année, toutes les équipes sont très fortes. Même les sélections africaines, prenez le Rwanda, le Maroc, elles sont venues avec leurs meilleurs coureurs. Donc voilà, je vais essayer de faire un bon résultat.
Un bon résultat, c'est aussi ce que visera l'Algérien Youssef Regigui, coureur World Tour jusque l'an dernier avec Dimension Data. Il roule cette année pour la petite équipe Sovac, engagée sur cette Tropicale. Engagée aussi la Côte d'Ivoire avec Abou Sanogo, le Cameroun emmené par Damien Tekou, le Burkina Faso de Mathias Sorgho et le Gabon de Cédric Tchouta. Le Gabon qui ne devrait pas jouer les premiers rôles, mais c'est une première bonne nouvelle. Les Gabonais seront au départ de leur tour national. Bonne nouvelle, je le disais, après leur forfait, bien sûr, de l'an dernier.
Thomas de Saint-Léger, en ligne avec nous depuis Libreville, assisté de Denis Chastel. On suivra cette Tropicale 13e édition avec vous deux toute cette semaine.
Mondial Sport.
La Croatie, une nouvelle fois à l'heure du handball jusqu'au 28 janvier. La nation des Balkans, hôte du mondial masculin en 2009 et déjà d'un championnat d'Europe en 2000, accueille depuis vendredi cet Euro 2018 où l'équipe de France espère continuer à briller dans la foulée d'un championnat du monde 2017 remporté à domicile. Mais les Bleus, en quête d'un quatrième sacre continental, le savent bien pour avoir raté la marche des demi-finales il y a 2 ans. L'Euro est une compétition au plateau très dense et au niveau relevé où les erreurs sont rarement pardonnées. Leur match de poule inaugural à Poreč vendredi contre la Norvège, finaliste du mondial l'an passé, avait d'ailleurs déjà sonné comme un avertissement avec une victoire des tricolores, certes, mais à l'arraché 32-31. Ce soir, c'était l'Autriche pour le deuxième match, adversaire nettement plus abordable et battu 33-26, ce qui valide du coup la qualification des Français pour le tour principal. Du travail propre et sans frayeur, salué par le sélectionneur Didier Dinard.
Les joueurs ont été respectueux des consignes, se sont données, on ne peut pas non plus leur reprocher. Après, on savait aussi qu'on était plus fort que l'équipe d'Autriche. Donc on tire les enseignements, on a pu faire les rotations, on a pu voir Nicolas Karabatic une heure sur le banc, c'est avec Sorano. Et maintenant, on va préparer ce match de Biélorussie et dans les meilleures conditions, je pense, puisqu'on n'a pas de pépin majeur. Il y a beaucoup plus de sérénité. Aujourd'hui, je pense que le groupe a sa dynamique et puis on avance tranquillement dans la compétition. Et on essaie d'être assez serein, donc on se rassure d'une manière générale. Et quand il y a des doutes, on essaie de les épurer afin que ça soit un petit peu parfait.
Didier Dinard avec Bein Sport, dernier match de poule des Français, donc mardi contre la Biélorussie. Sachez aussi que l'Allemagne, tenante du titre, a fait une entrée en fanfare dans la compétition en balayant le Monténégro 32-19 hier. Le handball est aussi d'actualité en Afrique et plus précisément à Libreville où démarra mercredi la CAN 2018 masculine dans un écrin flambant neuf, le Palais des Sports, Antoine.
Oui, 10 sélections en lice, l'Égypte très largement favorite à sa propre succession, la Tunisie reste en embuscade et le Gabon dans tout ça. Difficile a priori de voir les Gabonais viser les sommets, mais pas question pour autant de faire de la figuration à domicile. Voilà pourquoi la fédération a misé sur une tête d'affiche comme sélectionneur. Et quelle tête d'affiche ! La légende Jackson Richardson, double champion du monde 95 et 2001, entraîneur de Dijon, est convaincu par la fédération gabonaise de tenter une première aventure à la tête d'une sélection, à la grande satisfaction du directeur technique national Thierry-Claude Bini, pour qui Jackson Richardson était un choix naturel.
Richardson, c'est une icône. Richardson, en 2001, quand il jouait la finale à Bercy, le premier pôle cadet que nous avions ici, dont les joueurs, du moins 4, sont encore dans le groupe, était là, dans la salle. Cela pouvait aussi constituer une sorte de référence, une sorte d'élément motivateur. Et je pense quand même que Richardson, en ayant remporté des titres, n'a rien à démontrer autre si ce n'est donner le minimum ou encore le maximum d'éléments aux joueurs pour les amener à la performance.
On sait que Richardson, en temps normal, lui, il entraîne en France à Dijon, mais c'est son adjoint Pablo Morel qui s'occupe de l'équipe. Comment ça se passe?
Jackson est le principal et Pablo Morel l'adjoint. Pablo ne travaille pas seul. Pablo n'entreprend rien sans consulter le principal. Ce qui fait que à tout instant, Pablo est en contact avec Richardson et c'est Pablo qui a la manœuvre. Nous devons passer dans un autre contexte. C'est ce que nous voulons aussi démontrer à l'endroit de l'ensemble de l'encadrement au handball ici au Gabon.
On constate, et c'est une grande première dans le handball gabonais, il y a autant de naturalisés alors que le Gabon a un pôle cadet, alors que le Gabon a pris part par le passé à des compétitions mondiales au niveau des jeunes. Comment pouvez-vous expliquer ce grand nombre de naturalisés dans la sélection? Je rappelle qu'ils sont 5 au total.
Ils sont 5. Je veux aussi circonscrire en disant que sur les 5, il y a 13 nationaux. Et dans les 13 nationaux, nous avons 8 qui ressortent du pôle cadet. 8, ça fait 70%. 5, ça fait 28%. D'accord. Comment expliquer? Mais il y a plusieurs faits. L'environnement du handball gabonais. Là, je préfère ne pas trop m'avancer parce que je n'ai pas fait une étude en tant que telle, mais je regarde sur le terrain ce qui se passe. Les enfants, une fois au pôle, quand ils sont reversés dans les clubs, ont souvent des difficultés à retrouver le même environnement qu'ils avaient au club, c'est-à-dire les séances d'entraînement, c'est-à-dire l'encadrement, et puis tout ce qui s'ensuit. Je pense que voilà un peu un élément qui amène à un certain nombre de décrochés. Cela ne justifie pas le fait qu'aujourd'hui on soit là en train de prendre des éléments ailleurs. Il faut simplement que tout un chacun dans le milieu du handball gabonais, que ça soit la fédération, les clubs et les joueurs eux-mêmes, qu'il faut que tout un chacun essaye d'examiner sa conscience. Et s'il fallait faire venir des éléments extérieurs, on compterait 2-3. Mais l'enjeu de l'organisation nous a amené à venir rééquilibrer aussi le dynamisme, la spontanéité avec laquelle nos jeunes expriment. Il nous fallait tout de même avoir des gens mûrs et des gens d'expérience. Et c'est pourquoi nous sommes inscrits là-dedans.
Quel est l'objectif du Gabon dans son groupe qui n'avait pas encore atteint les quarts de finale dans cette compétition?
Et la fédération a défini au sélectionneur le deuxième tour, c'est-à-dire les quarts de finale. Il faut tout faire pour que le Gabon ait un classement qui lui permet de jouer les quarts de finale.
Mais... Parlons-en classement. On sait que dans votre groupe, la Tunisie est hors de portée. Vous espérez quel classement pour avoir un bon adversaire en quart de finale?
En principe, la première idée qui nous saute à l'œil, c'est la troisième place. Mais si nous sommes troisième, ça veut dire qu'il va falloir batailler fort avec l'idée soit c'est le Maroc, soit c'est l'Angola pour les quarts de finale. Mais il est mieux d'éviter d'avoir l'Égypte en quart de finale. Donc, maintenant, si le bonus nous sourit pour avoir, au lieu de 4 points, 6 points, Dieu merci, ça veut dire que tout de suite, on occupera la deuxième place pour pouvoir jouer contre le troisième. Et le troisième, certainement, ça pourrait être le Maroc, ça pourrait être la RDC.
Thierry-Claude Bini, le DTN du Gabon, au micro de Fritz Koum. Le Gabon en lice dans le groupe A avec la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun et le Congo, qui sera d'ailleurs le premier adversaire des Panthères mercredi. Dans le groupe B, l'Égypte affrontera successivement le Maroc, le Nigeria, l'Angola et la RDC.
Cela faisait un bon moment qu'une saison de tennis n'avait pas démarré avec aussi peu de certitude sur la forme et le niveau des ténors du circuit. Du coup, l'Open d'Australie, qui démarre dans un petit peu plus de 2 heures à Melbourne, arrive à point nommé pour tenter d'y voir un petit peu plus clair. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, autant de joueurs en reprise et dans le doute depuis des mois, et donc guetté lors de cette quinzaine australienne où le grand favori n'est autre que le tenant du titre, un petit jeune de 36 ans nommé Roger Federer, qui n'a apparemment que faire du temps qui passe. Numéro 2 mondial, 2 tournois du Grand Chelem de plus à son actif en 2017. Le Suisse a de quoi avoir le moral, mais son âge et sa blessure au genou en 2016 l'ont tout de même rendu prudent.
Je pense que je peux parler un peu différemment depuis ma blessure que dans le passé. Et chaque fois quand quelqu'un essaie de me mettre trop de pression sur moi, que peut-être une demi-finale c'est un mauvais résultat, je peux toujours essayer d'expliquer que à 36, peut-être les demi-finales, les finales et les victoires en tournoi, c'est quand même peut-être pas aussi normal que ça. Et les gens sont quand même plus compréhensibles aujourd'hui que peut-être dans le passé. C'est vrai que certains, ils m'ont mis comme un peu comme une sorte de machine quand j'ai gagné chaque semaine à l'époque, 2005, 6, 7, voilà. Alors, je pense que c'est plutôt une image qui a été créée de moi. Mais pour finir, je suis quand même toujours resté le mec normal du coin à côté, quoi.
Oui, normal. Le Roger Federer aux 19 titres en grand chelem, tout de même, au micro de Frédéric Suto. Alors, peut-il profiter des interrogations et du manque de repères de ses principaux adversaires pour remporter un 20e titre majeur? Pas forcément, car l'Open d'Australie arrive toujours trop tôt pour faire des pronostics crédibles, rappelle l'ancien joueur français et ex-DTN Arnaud Di Pasquale, joint par Eric Mamrut.
C'est peut-être un petit peu plus présent cette année, mais chaque année, enfin, l'Open d'Australie, c'est finalement le premier grand chelem de l'année, et c'est là où il y a le plus d'incertitudes, le plus d'inquiétudes, même parfois pour certains. On ne sait pas trop où se situent les joueurs globalement. On est un peu sur le retour. Il y a peu de matchs souvent qui ont été joués, même par les meilleurs, souvent même quelques exhibitions, donc des tournois non homologués. Donc c'est vrai que c'est un peu le tournoi sur lequel il est très dur de faire des pronostics.
Andy Murray donc s'est fait opérer de la hanche, il est out pour au moins 6 mois. Kei Nishikori lui aussi est forfait. Nadal revient à peine de sa blessure au genou. Djokovic à peine de sa blessure au coude. Wawrinka est un peu limite avec son genou qu'il s'est fait opérer 2 fois. Dans ce contexte, est-ce que c'est pas l'autoroute pour Roger Federer, le tenant du titre?
En tout cas, dans ce contexte, Federer a le sourire, ça c'est certain. Lui qui a joué à l'Open Cup, je l'ai trouvé assez en forme sur les matchs en plus qu'il a pu disputer, très détendu, prendre beaucoup de plaisir. Il sait clairement que ses opposants directs sont moins en forme que d'habitude. Ce qui est sûr, c'est que pour lui, il a une bonne carte à jouer, il le sait. Ça va être assez intéressant de voir comment il va se comporter, surtout sur les premiers tours. Il faudra qu'il se lance vraiment dans la compétition, dans le tournoi. Pas très inquiet, hein. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience aujourd'hui, mais ça serait quand même assez extraordinaire de le voir encore cette année rééditer l'exploit finalement de l'année dernière, peut-être aller gagner un, voire peut-être plus de grands chelems.
L'an dernier, c'était face à Rafael Nadal au terme d'une finale homérique. Nadal, on ne sait pas vraiment où il en est, mais il est capable de tout.
Oui, voilà, Nadal, c'est celui finalement sur qui on peut toujours compter. C'est-à-dire que s'il s'aligne, c'est qu'il est à 100%, c'est qu'il est, il sera opérationnel, compétitif et capable d'aller justement élever lui son niveau de jeu pour aller battre des joueurs comme Federer. C'est vrai que cette finale l'année passée fait partie des plus beaux matchs que j'ai dû voir dans ma vie. J'ai trouvé ça vraiment absolument fantastique. Au-delà du fait de les retrouver tous les deux en finale, on les imaginait plus du tout à ce niveau de la compétition. Mais Nadal, ouais, il faudra de toute façon faire avec lui, même si on sait pas trop. Lui, c'est pas le genre de joueur de toute façon à lâcher. C'est celui, enfin, c'est certainement le plus opiniâtre et je suis certain qu'il sera en forme. J'ai pas d'inquiétude non plus de ce côté-là. S'il s'aligne, en tout cas, c'est que physiquement, il sera bien.
Les outsiders, on peut les classer en deux catégories. Commençons par les petits jeunes qui montent. Est-ce qu'il y en a un parmi eux qui peut, selon vous, d'ores et déjà aller chercher un grand chelem comme l'Australie?
On ne sait jamais, évidemment, c'est possible. Maintenant, je les trouve encore un petit peu friables. J'ai le sentiment qu'aller chercher 2-3 victoires de suite face à Otto Meyer est encore un petit peu difficile. Il faut passer encore des caps, c'est-à-dire que on le voit bien, hein, aujourd'hui, faire quart, demi, c'est de toute façon pas la victoire. Et pour aller chercher cette victoire, est-ce qu'ils ont suffisamment progressé? C'est pas tennistique, hein. Ce dont on parle là, c'est en termes de confiance, c'est croire en soi, c'est une force mentale encore à développer. Je sais pas si aujourd'hui Alexandre Zverev pourra aller gagner l'Open d'Australie. J'en suis pas convaincu comme ça. Je sais pas si Dominic Thiem non plus.
Kyrgios
pourra le faire. Kyrgios, peut-être, parce que sa fougue, sa folie peut lui permettre, en plus chez lui, d'aller se sublimer, de se transcender, au point d'aller gagner un grand chelem. C'est vraiment le point d'interrogation. Je suis un petit peu hésitant quand je le dis, mais à la limite, pourquoi pas.
Alors, il y a la génération intermédiaire entre les Federer, Nadal et ses plus jeunes joueurs. Des joueurs en forme actuellement, Dimitrov, Goffin, Del Potro par exemple, ils sont tout prêts là.
Ouais, voilà. Et cette génération, elle est intéressante, hein, puisque eux sont décomplexés. Je crois vraiment qu'ils sont dans une phase là où ils sentent que l'écart se réduit de plus en plus. On voit Goffin et cette fin d'année dernière extraordinaire où il est allé battre Federer. Alors peut-être que Federer était émoussé, c'était la fin de l'année, mais peu importe. La victoire, c'est important. Savoir qu'on peut le faire. Del Potro, pareil, il a déjà fait. Dimitrov qui finit sur une très très bonne note au Masters, pareil, il est troisième mondial. Ils sont capables et ils progressent vraiment. Je trouve qu'il y a voilà l'écart qui se réduit. Alors encore une fois, l'écart il n'était pas immense, mais il se réduit encore un petit peu plus. Et c'est pour ça que Federer a le sourire, mais finalement il n'y a pas de boulevard non plus. Derrière, il y en a quand même beaucoup qui sont éligibles en tout cas à la victoire, et ceux-là peut-être encore plus que les jeunes dont on a parlé précédemment.
Et les Français dans tout ça, est-ce qu'il y a la place pour l'un d'entre eux pour se faufiler par exemple dans le dernier carré?
Dans le dernier carré, oui, sur la victoire, ça paraît compliqué, mais pourquoi pas, enfin, quand on voit le début d'année, il y a Gilles Simon qui a regagné un tournoi, je trouve ça quand même assez dingue, on le pensait complètement paumé, perdu, et puis des belles victoires en plus, hein, notamment sur Cilic et Anderson, puis en face, il y a Gaël Monfils à Doha qui gagne le tournoi, donc il finit aussi sur des victoires, c'est quand même important, et finalement, ça lance parfaitement leur année, et il suffit de pas grand-chose pour que les déclics se produisent, et après, sur les autres, on peut difficilement se projeter, mais on sait très bien que Tsonga, Pouille sont capables, Richard Gasquet, qui paraît aussi très en forme en ce moment, sont des joueurs qui sont capables d'aller chercher au moins des quarts en grand chelem. Maintenant, voilà, le quart de finale est envisageable. Le dernier carré aussi. Après, pour aller plus loin, va falloir vraiment être en très, 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 très grande forme.
Arnaud Di Pasquale, parmi les matchs au programme de cette première journée, Rafael Nadal contre le Dominicain Estrella Burgos, le Bulgare Grigor Dimitrov contre l'Autrichien Novak, Joe Wilfried Tsonga face à l'Américain Kevin King et Lucas Pouille contre le Belge Ruben Bemelsman. Dans le tableau féminin, à noter les débuts de deux vainqueurs en Grand Chelem en 2017, la Lettonne Yelena Ostapenko contre l'Italienne Francesca Schiavone et l'Américaine Sloane Stephens contre la Chinoise Zhang Shuai. Avant de se séparer, un petit mot de la flamme olympique des JO d'hiver 2018 qui est arrivé à Séoul hier pour un séjour de 4 jours avant de continuer son parcours vers Pyeongchang où elle illuminera la vasque lors de la cérémonie d'ouverture le 9 février. Cérémonie où on pourrait assister à une scène encore plus mémorable, voir défiler ensemble les deux délégations nord et sud-coréennes. C'est une des propositions faites mardi dernier par le Sud lors des pourparlers intercoréens à Panmunjom. Ce ne serait pas une première dans l'histoire des Jeux, mais dans le contexte actuel, la symbolique serait forte. Et pour le président du comité olympique français, Denis Masseglia, c'est bien au CIO et au valeur de l'olympisme que l'on doit cette soudaine détente.
Rien que si on regarde ce qui s'est passé entre le mois dernier Le monde était sous tension, en se posant la question de ce qui allait se passer éventuellement dans la difficulté de rapport entre les deux Corées et où les mots que l'on prononçait étaient davantage liés au bouton rouge et au mot nucléaire qu'au rapprochement, à la paix et à la fraternité. Le miracle des Jeux, la magie de l'olympisme a permis déjà que les deux Corées se parlent. Est-ce qu'il y a un autre élément sociétal qui est capable, comme les Jeux et l'olympisme, d'entraîner ce type de changement de comportement humain ? Ça doit donner à réfléchir à tous ceux qui disent bah, « l'olympisme c'est du pognon, c'est de ceci, c'est de cela ». Aujourd'hui, les Jeux sont là pour montrer tout ce qu'ils peuvent apporter en termes de dimension humaine, de rapprochement entre les peuples. Et tout ça fait partie d'une démarche que le CIO a organisée, initiée. Et je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau aussi à la diplomatie que le président Thomas Barr a mis en œuvre pour que l'on arrive déjà à un résultat qui est tangible, sans savoir exactement ce que sera le résultat final, mais pour lequel on peut espérer être optimiste.
Denis Masseglia, le président du CNOSF, Corée du Nord et du Sud, doivent se retrouver dimanche prochain au siège du CIO à Lausanne pour arrêter concrètement les modalités de la participation nord-coréenne. Sachez que le Paris Saint-Germain est allé battre Nantes tout à l'heure 1-0 en Ligue 1 et compte désormais 11 points d'avance sur Monaco et Lyon. Et en Espagne, le FC Barcelone a fini par s'imposer 4-2 sur le terrain de la Real Sociedad et compte désormais 9 longueurs d'avance sur l'Atlético de Madrid. Voilà, Mondial Sport, c'est terminé. Grand merci à Quentin Bresson et Jean-Philippe Thury pour la réalisation. Dans un instant, 24 heures en France avec Romain Ouzoui. Bonne soirée.